Aujourd'hui, vous allez écouter le tout premier podcast de la Nouvelle Liégeoise, où j'accueille au micro la vidéaste Caroline Poisson. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Caroline Poisson, c'est une jeune femme très dynamique, curieuse, touche à tout, elle a son ciné-club, elle chante dans un groupe de musique, elle fait des reporters, des clips vidéo, bref, moi j'ai personnellement beaucoup appris, notamment sur le thème du trop-plein de travail chez les indépendants, comme quoi il fallait s'autoriser à être humain, comme elle le dit, et s'accorder des pauses, que travailler pour soi, ça s'apprend, et que son métier idéal, bah, il se crée aussi, finalement. Donc, j'espère que vous apprécierez cette interview, et qu'elle vous sera surtout utile. J'aurais juste envie de vous demander, avant de commencer l'interview, d'être indulgent, parce qu'en fait, le micro, il n'était pas super bien réglé, et que ça me permettra de m'améliorer pour le prochain. Donc bon, concentrez-vous uniquement sur le fond. Voilà, je vous laisse avec l'interview. Je suis ravie de te recevoir pour le tout premier podcast de la Nouvelle Liégeoise. Donc, tu es Caroline Poisson, tu fais beaucoup de vidéos, des reportages. Tu fais aussi un ciné-club.
Ouais.
Tu es chanteuse chez Bandit. Enfin, genre, tu fais énormément de choses, franchement, c'est assez fou. Et du coup, bah, en fait, tu es quand même assez multitâche. Et moi, j'avais une question, c'était est-ce que tu penses que c'est un aspect de ta personnalité que tu as toujours eu? Ou bien, en fait, tu t'es rendu compte que tu devais développer pour avoir une certaine personnalité ou un certain univers?
Je suis comme ça depuis que je suis petite. Hein, c'était presque un problème, en fait, quand j'étais petite. Et c'est resté... Enfin, ce qui était un problème est devenu peut-être une force. C'est que j'ai toujours voulu tout faire en même temps. Astronaute, fée, paléontologue, aller faire des... tout faire, tout connaître, tout étudier, tout... Et ça change pas, en fait, donc...
Mais après, genre, quand on aime vraiment beaucoup de choses, c'est pas super facile de se trouver, tu vois. Genre, ouais, si t'aimes ouais. Le bleu, le rose, le vert, l'orange, bah en fait, quelle est la couleur que tu préfères?
C'est ça qui est compliqué, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir un peu se recentrer sur des idées principales. Et dans mon cas, à un moment donné, il faut quand même manger. Et j'ai dû aussi voir qu'est-ce qui allait vraiment me faire manger dans toutes mes...
Astronaute, vidéaste.
Voilà, c'est ça. À un moment donné, je me suis bien rendu compte que je n'étais pas devenue astronaute et que je n'allais pas faire ça de ma vie spécialement. Mais c'est des... Tout m'intéresse, en fait, tout. Et c'est parfois un peu fatigant pour mon cerveau. Mais en même temps, je pense que c'est ça qui fait aussi ma personnalité. Parfois, c'est pas facile à suivre, même pour les autres, pas que pour moi.
Et tu fais un tri, du coup, d'idées? De meilleures idées, plus peut-être productives par rapport à ce que tu vas manger.
Mais j'ai dû faire à un moment donné appel à une coach pour m'aider à organiser ma tête. Parce que, en fait, je lui disais, oui, ben voilà, ici je veux faire ça et ça. Elle me dit, quoi, dans 3 ans? Je fais, non, dans les 2 mois. C'est pas possible, en fait. À un moment donné, il faut un petit peu trier. Donc je me suis dit, ok, cette période-là, elle sera consacrée à ça. C'est parce que. En même temps, il y a mon travail de vidéaste, puis il y a la musique, et puis j'écris mon film, et puis je fais un bouquin, je dessine. C'est pas forcément tous des projets qui vont être professionnels ou qui vont me rapporter quelque chose, mais c'est juste parce que j'adore ça, en fait. Là, pour l'instant, je redessine beaucoup. C'est pas pour devenir la nouvelle illustratrice, c'est juste parce que ça m'éclate, hein, le fait.
Bah, maintenant, c'est en faisant les choses qu'on aime aussi qu'on arrive mieux à s'épanouir, tu vois. Et comment t'arrives, du coup, à avoir... que tu voulais être vidéaste en priorisant, parce que c'est pas non plus ce qui rapporte entre guillemets le mieux, surtout que si t'as pas forcément le carnet d'adresse d'Hollywood.
Ouais, mais en fait, à l'école, déjà je me suis retrouvée à l'ERGUE, qui est une école assez pluridisciplinaire, donc aussi c'était pareil, c'était mon jury de fin d'année, je faisais de l'illu, de la musique, de la projection, et en fait ils trouvaient ça assez riche, mais je suis sortie de là, je me suis dit, mais c'est cool, mais j'ai pas de métier en fait, parce que... J'avais fait de la vidéo, mais la vidéo expérimentale, donc tout ce qui est projection dans les musées, tout ça, mais j'avais découvert ça à Berlin. Et donc, j'étais un peu paumée à me dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Et vu que je faisais de la musique, j'avais joué aux Ardentes, des choses comme ça, et donc j'ai eu facilement l'accès en tant que vidéaste, parce que je faisais mes petites vidéos, comme j'appelais ça à l'époque, pour le plaisir, parce que je trouvais ça marrant, et que j'ai eu des contacts via la musique qui m'ont amené au monde de la vidéo.
Donc, c'était en quelle année, ça?
Ouh là là, c'était à peut-être 10 ans.
Ouais, donc on situe 2010. En fait, je situe ça par rapport à tous les réseaux sociaux qu'il y a eu, parce qu'à l'époque, les vidéos, ça se faisait pas énormément.
Et moi, vu que j'ai commencé via les festivals, voilà, y avait de la demande. Et puis, j'ai aussi beaucoup bossé avec les ateliers d'art contemporain à l'époque, avec un artiste qui s'appelle Werner Moron et Alex Leux, qui travaillait pour la Film Fabrique, qui faisait des clips de musique. En fait, tout était un peu lié et tout. Et je me suis un peu développée grâce à mes contacts qui venaient de la musique.
Dans la musique, en fait. Parce que tu chantais à la base.
Ouais, dans un ancien groupe. Et donc c'est comme ça que ça s'est un peu arrivé. Et puis, je trouvais ça cool, donc continuer. Et en fait, je ne me suis jamais dit je vais être vidéaste. Je savais même pas que c'était un métier.
Peut-être que, enfin, t'as créé ton propre métier, tu vois.
Mais maintenant, en même temps, on entend ce mot-là. Oui. C'est vrai, quand j'ai dû mettre un mot sur mon métier, je me suis dit...
C'est ça que je t'ai demandé l'année. En fait. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que t'as pu, en fait, te créer ton métier et faire un peu une formule magique où t'arrivais à tout trouver, quoi. Que ce soit la musique que tu fais dans les festivals, t'as créé un ciné-club aussi.
Ouais.
Pour un peu...
Quand j'ai fini mes études, je suis partie en train, d'abord avec des copines en interrail, et puis je suis partie toute seule dans mon coin parce que c'était pas du tout en prime avec mes copines, mais j'avais besoin d'être seule.
D'être seule avec tes mille idées.
D'être seule avec mes mille idées. Je me souviens, j'étais dans le train, j'écoutais de la musique, en même temps je lisais un bouquin et en même temps je prenais des notes. Enfin, c'était un peu. Je lisais Madame Bovary en plus, donc encore une fois.
Ah oui, donc l'éloge de l'ennui en plus.
Et je suis fan de Gilmore Girls, j'adore cette série. Et dans Gilmore Girls, ils ont un ciné-club dans leur petite ville. Vieux canapé, du pop-corn, où en fait, Lorelai et sa fille, ils n'arrêtent pas de causer et tout. Et moi, je cause tout le temps, donc évidemment, ça me...
T'avais envie de retrouver ça.
J'aime bien ça, et je me suis dit, oh, ce serait cool de monter un ciné-club où on peut parler, en fait. Aller voir des films qu'on a tous un peu vus. Et donc, c'est comme quand t'es chez toi avec ton mec et que tu mets « Maman, j'ai raté l'avion » et que tu sais que tu peux parler, mais tu comprendrais quand même l'histoire. Et à l'époque, j'étais dans le CA d'une librairie d'art, de petits bouquins d'auteurs au comptoir du livre. Et j'étais bénévole là-bas, je faisais partie du CA. Et j'aurais proposé mon idée, j'ai dit « Ouais, j'aimerais bien faire ça, ça vous dit ?» Ils m'ont dit « Oui, vas-y, teste !» Et au départ, on était 4-5, et puis maintenant, on est parfois 70. J'ai changé d'endroit au fur et à mesure pour avoir des endroits de plus en plus grands, et maintenant, on est chez Envie. Alors, des gens se rencontrent, puis c'est pas une population, tu ne sais pas. Ce que j'aime pas, parfois, c'est les styles d'activité qui regroupent des styles de personnes.
Mais bon, après, ces styles de personnes-là le veulent bien aussi,
se retrouver. Le veulent bien aussi, bien sûr. Je veux dire, on a tous...
Mais toi, c'était pas ton but.
On a les cafés de hipsters, je peux être une caricature de ça aussi. Mais ce que j'aime au ciné-club, c'est qu'il y a de tout. J'ai une fille, elle vient avec son père.
C'est génial.
Ma mère, parfois, elle vient. On a des potes des États-Unis qui sont venus au ciné-club.
Parce que le film, comme la musique, réunit finalement.
À fond. Vraiment, c'est passionnant. Maintenant, c'est pas du tout pour faire un anti-cinéma, parce que je suis évidemment hyper fan des salles de cinéma. Et alors, je fais aussi des partenariats avec le cinéma, donc je présente des films au Green Room avec les pirates, comme on appelle, du ciné-club, où on vient foutre un peu le bordel au Green Room et tout ça. Mais voilà, c'est juste parce que c'est drôle, en fait. Je pense que c'est un peu mon mantra.
Je pense que t'as mille idées, mais finalement, qui correspondent vraiment à ton univers. C'est quand t'as envie de faire quelque chose, tu le fais.
Ouais.
Tu vois, enfin, je pense qu'il n'y a qu'un seul moyen de savoir si quelque chose va marcher ou pas.
Ouais.
Et t'as quand même... ton style à toi, enfin, et tu le dis bien, enfin voilà, Karine Poisson, parce que ton nom de famille c'est de Haran, du coup tu...
J'en ai beaucoup souffert quand j'étais...
Et bah du coup t'en fais une force.
Bah oui, je laisse ça à mon ex, j'avoue, c'est lui qui m'a dit à l'époque, et ça fait plus, on était encore étudiants, et qui m'avait dit, bah ouais, tu devrais faire un logo avec un poisson ou quoi, puis je me suis dit, bah ouais, en fait, ça, c'est simplement de là...
Oui, bah ça c'est voilà, il a ça a quand même des bonnes choses d'avoir des ex.
Bah ouais, il est très doué. Hein.
En fait, est-ce que tu arriverais à définir ton style et à quel moment tu t'es dit que c'était ton style à toi?
C'est assez difficile parce que je pense que c'est le retour des gens qui m'a fait me rendre compte. C'est en fait quand on me disait par rapport à mes vidéos ici, hein, on me disait tes vidéos elles sont ça, elles sont ceci, elles sont cela, elles ont ces qualités ou... Et là, je me suis dit, en fait, si ces mots reviennent à chaque fois, c'est un peu grâce au retour des gens que je me suis fait un peu ma base de mots-clés, entre guillemets.
Toi, mais que t'as pas voulu créer à la base ou mais que...
En fait, moi,
un peu malgré toi.
Je pense que je voulais faire des images assez sincères. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de rendre tout très beau. Alors, ça peut être totalement critiquable. C'est très subjectif. Mais en fait, pour moi, quoi que je filme, je veux trouver ça... beau, mais quand je dis beau, c'est pas pour une question de goût personnel, c'est très compliqué à expliquer, c'est plus... En fait, je veux que tout ait l'air d'un rêve. En fait, moi, la vidéo, pour moi, elle a plus en lien avec le cinéma qu'avec les réseaux sociaux. Donc moi, tout ce qui est vidéo, réseaux sociaux, très rapide et tout ça, il y a des gens qui le font super bien. Et moi, c'est peut-être... Je l'ai fait à un moment donné, parce que j'ai dû travailler là-dedans, je travaillais pour un magazine de mode, etc. Et c'était un énorme apprentissage pour moi. Mais en fait, c'est moins ce qui m'attire. Moi, ce qui m'attire, c'est les images, c'est la beauté, c'est la couleur, c'est le... Et en termes en termes de forme de vidéo, je pense que c'est vraiment oui, ce goût pour le cinéma, pour les vieux films. Je suis très très fan de vieux cinéma, je suis très fan des années 50 et tout ça. Il y a un côté dans les couleurs, dans les plans, dans les textures qui, moi si je pouvais tourner en pellicule, ce serait un rêve quoi.
Pourquoi pas. Donc,
vraiment c'est un truc. Et par rapport au fond des vidéos, ce qui m'intéresse aussi, c'est que les gens, un peu, souvent, quand je fais des portraits d'entrepreneurs, je veux que les gens ils se sentent beaux, que les gens ils se regardent, et, parce que souvent t'as des gens qui disent oh, j'aime pas être filmée, je suis pas à l'aise et tout ça. Et quand après ils me disent pour une fois je me trouve belle, mais quel bonheur. Et dans le fond, je veux vraiment que les choses soient humaines et vraies. Je sais pas si c'est hyper clair, mais.
En fait, moi je voulais savoir si le style que tu crées était voulu ou conscient, en tout cas. Conscientisé peut-être par la suite parce
que... Oui, je pense que c'est conscientisé par la suite. Je pense qu'au départ, c'est plus que... J'ai fait ce qui me... J'ai créé les images que j'avais envie de voir, tu vois.
Et après, tu attires les gens qui
voilà,
te correspondent
ça.
Aussi.
Oui, mais ça, par contre, après, c'est très travaillé dans le sens où, par exemple, mon site internet, je ne mets que ce que je veux faire. C'est-à-dire qu'il m'arrive parfois de répondre à certaines demandes qui sont peut-être un peu moins mon domaine, à moi de voir si j'y réponds ou pas. Je sais tout à fait dire, écoutez, c'est pas mon truc, moi je vais pas le faire bien, demander à lui ou à elle, parce que j'ai pas de soucis à renseigner d'autres vidéastes, si c'est pas mon truc. Si par contre, c'est pour, par exemple, le mec d'une copine qui a besoin d'une vidéaste pour un truc qui est pas du tout mon style, mais qui a besoin, je vais le faire, mais je ne le mettrai pas sur mon site. Parce que je sais que c'est pas le genre de boulot dans lequel je vais m'épanouir.
Donc il y a quand même un ciblage en fait.
Ouais, c'est ça, ciblage, mais bien sûr, j'accepte toutes les demandes. C'est vraiment après la discussion. Si je vois que je suis pas la bonne personne pour eux, je leur dirai.
Oui,
je
c'est normal.
Qu'ils payent quelqu'un d'autre, voilà.
Oui, tu sais quand même ce que tu sais faire, donc il faut
bien
avoir
sûr.
Conscience de ses qualités, peut-être aussi de ses défauts.
Mais limites aussi,
oui, c'est ça qui est important, je pense, parce qu'on a tendance, entre guillemets, quand tu lances une entreprise, à vouloir, tu sais, tout cibler. Genre, je vends des fringues, je vends tout. Et en fait, le client ne sait même plus, tu vois.
Mais au début, c'était un peu ça. Au début, je répondais à toute demande parce qu'il fallait que je me fasse connaître, parce qu'il fallait que je bosse, parce qu'il fallait que je crée mon truc. Et au fur et à mesure, je me suis dit, voilà, ça, en fait, j'aime pas le faire.
Tu n'aimes pas.
Et quand on me le demande, je dis en fait non, poliment.
Oui, mais parce que ça dessert aussi le client.
Oui, mais ça va le desservir. Lui, il va pas peut-être avoir une vidéo de top qualité parce que je le ferai peut-être pas avec 100% de mon cœur.
Et du coup, t'as eu des mauvaises expériences, pas des mauvaises, mais des choses peut-être qui t'ont servi de leçon pour dire tiens, ça je fais pas en fait.
Ouais. J'en ai quelques-unes. Ouais.
Mais qui t'ont permis de mieux te révéler.
Voilà,
hein.
J'ai jamais eu de soucis avec un client ou autre vraiment violent. Maintenant, il y a parfois des gens, ça m'est arrivé, qui m'ont dit ah, c'est pas vraiment ce que j'imaginais. Et je répondais oui, c'est pas vraiment ce que je pensais non plus. En fait, on n'a pas réussi à se comprendre ou quoi, mais après, on trouve toujours une solution qui, d'une façon ou d'une autre, mais c'est arrivé rarement.
Mais t'aurais un ou deux exemples un peu de choses vraiment concrètes sans citer des noms, mais vraiment une situation où t'as du coup vachement appris parce que tu sais que bah, ça serait pas à refaire ou...
Mais par exemple, j'ai eu une fois une commande où c'était pour filmer un genre de scène jouée en termes théâtre par deux personnes. Et en fait, eux s'attendaient à quelque chose qui faisait vraiment série télé avec plusieurs plans et tout ça. Mais j'avais expliqué à l'avant, j'ai dit, moi je suis une personne avec une caméra. Je ne peux pas vous faire un rendu avec une caméra et une télé à moi toute seule. Enfin, c'était pas possible. Et ils voulaient quand même le faire avec moi. On l'a fait. Mais à un moment donné, les limites techniques, je leur avais expliqué. Donc ils n'étaient pas fâchés, ils comprenaient. Mais ils disaient, on aurait peut-être dû t'écouter, faire peut-être appel à une équipe ou comme on n'avait pas le budget et tout. Enfin, c'est plus dans des situations comme ça où mais j'explique bien à l'avance parce que je dis voilà, moi si vous voulez ça, moi je peux vous faire ça, mais je ne peux pas vous faire ça. J'explique bien à l'avance pour ne pas faire un moment, je prends votre argent et après on verra quoi.
C'est de la communication en fait.
La communication.
Beaucoup.
Et puis aussi pour le magazine pour lequel j'ai travaillé pendant 2 ans, je pense que ça m'a apporté énormément de choses que j'ai appris. J'ai appris plein de choses. Mais c'était pas mon univers. C'était pas mon univers
pas.
En termes de même les musiciens que je suivais, les reportages. Il y en a eu qui ont été vraiment magiques et merveilleux, mais il y en avait. C'était pas mon truc, quoi. Et je pense que j'ai bien fait mon travail le mieux possible, mais après, quand je suis partie, je leur ai trouvé quelqu'un pour me remplacer qui faisait ça beaucoup mieux que moi. Parce que c'était son truc.
Correspondait plus en termes de style et d'envie, et peut-être même de vision des choses aussi.
Vision des choses, et puis. puis d'envie. Je veux dire, quand tu dois monter une vidéo de 3 minutes sur de la musique que tu détestes, enfin, c'est compliqué.
Le pire après, c'est que tu l'as dans la tête alors que tu l'aimes pas. étant donné que le monde quand même évolue vachement, tu vois, genre comme tu disais, t'as commencé en 2010 et maintenant on est en 2021, ça n'a absolument rien à voir, quoi. Donc comment peut-être tu gardes une ligne éditoriale que Caroline Poisson de 2010, bah les gens se fassent toujours confiance à cette personne en 2021 aussi, alors que tout change, hein.
En fait, évidemment, je me mets à la page en termes de logiciel, de matériel, des choses comme ça, j'évolue. Par contre, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est très branché technique. Tout ce qui est, à un moment donné, il y a eu la grosse mode du glitch dans les vidéos et qui continue un peu. C'est quand tu vois, tu as des vidéos qui vibrent. Je ne me suis pas mise à ces modes. J'essaye d'avoir un travail qui est plutôt, comment dire, c'est quelque chose qui peut fonctionner dans le temps.
Intemporel.
Merci.
Parfois, c'est les choses les plus évidentes. Ouais.
C'est pour ça que je pense qu'en faisant des vidéos qui sont sans chichi, c'est plus facile d'être intemporel sans chichi, en fait.
Mais ça marche pour tout.
Qu'avec des tas d'effets, etc. Et je pense que, par exemple, si on me demande une vidéo avec du motion design, j'ai appris à faire du motion design, j'ai fait des formations, je sais comment fonctionne After Effects et tout ça. Mais c'est pas mon truc. Motion design, c'est ce qui va animer les textes, les trucs et tout ça. Si vraiment il y a une demande spécifique et qu'il faut l'ajouter, je vais faire appel à une boîte en sous-traitance. Mais sinon, quand on parle de la préparation de la vidéo, je veux dire, voilà, moi je suis sur de l'intemporel, parce que l'intemporel, dans 6 mois, vous pourrez encore l'utiliser, dans 1 an, vous pourrez encore l'utiliser. Et si on a eu le problème Covid, masque et tout ça, je me suis arrangée pour faire des vidéos qui allaient fonctionner. Je dis, c'est pour une vidéo qui va fonctionner 1 an, vous aurez déboursé... J'avoue qu'à l'époque, je pensais que ça durait moins longtemps, mais t'as quand même envie d'avoir un truc qui va faire rêver sur le long terme. Je pense que le classique est intemporel.
C'est vrai que c'est pas facile, tu vois, pour quelqu'un qui voudrait, entre guillemets, même se trouver un style ou...
Non, c'est pas facile, mais je pense...
Et se démarquer, en fait.
Ouais.
C'est ça aussi.
Mais parfois, il y a plein de remises en question. Parfois, je vois des vidéos qui ont été faites par d'autres personnes, que ce soit à Liège ou à Bruxelles ou autre, pleines d'effets et tout ça. Et je me suis déjà dit, oh, est-ce que je fais de la merde ? Est-ce que moi, c'est pas travailler ? C'est pas que je ne sais pas le faire, c'est juste que j'ai pas envie, en fait. C'est pas mon truc. Et c'est une amie, une fois, qui m'a dit, j'en parlais avec elle, et je dis, ouais, parfois, j'ai l'impression d'être à côté de la plaque. Elle m'a dit, mais non, t'es pas à côté de la plaque, tu proposes un truc différent, il faut que tu gardes ça comme une force. Et c'est mon amie qui m'a un peu réconfortée, parce que je voyais tous ces trucs avec 20 000 effets, les ralentis et tout, et moi, en fait, c'est pas ce qui me plaît, même dans les films que je regarde. Donc elle m'a dit, mais non, garde ça, et en fait, elle m'a vraiment rassurée.
Vas attirer les clients qui n'aiment que ça aussi, vois, qui restent peut-être simples. Qu'est-ce qui te plaît le plus, en fait, dans ton métier, que ce soit la rencontre, le montage, le choix de la musique, le fait d'aller à gauche à droite rencontrer des nouveaux clients?
Je vais dire un truc un peu bateau, mais j'aime bien la liberté que ça me procure. Parce que ça fait un peu enfant gâté comme ça, mais je fais un peu ce que je veux, tu vois. Donc maintenant, faut pas rire, je travaille beaucoup, je suis très organisée et tout ça, mais... À partir du moment où ton boulot, c'est un plaisir, tu ne te vois plus comme du boulot. Donc, en fait, tout me plaît. Et je suis plutôt du style à me poser... Si à un moment donné, je sens un malaise, je vais vraiment me poser et me dire pourquoi il y a un malaise. Pourquoi est-ce que je ne me sens pas bien dans cette situation? Pourquoi ça ne me plaît pas? Et je vais directement switcher. Par exemple, il y avait un type de boulot que je faisais souvent, qu'on me demandait souvent, et il y avait un truc qui me bloquait. En fait, je me suis dit, mais en fait, j'aime pas faire ça. Donc, j'ai juste arrêté de le faire.
Bon, franchement, arriver à penser comme ça, je trouve que c'est vraiment... C'est un peu de la sagesse aussi, tu vois,
c'est la vieillesse.
Oui, c'est de l'expérience, c'est genre à quel moment tu dis genre j'aime faire ça, ça devient mon métier, parce que moi j'ai peur que quand une passion devient vraiment un boulot, bah tu le vois plus comme passion.
Mais justement, je pense que ça c'est une erreur que j'ai pu faire au début, et qu'on donne un peu à tous les entrepreneurs cette idée que être entrepreneur, c'est ne pas avoir de vie. Ne pas avoir d'horaire, ne pas avoir de week-end, ne pas avoir de soirée. Effectivement, au début, c'est ça. J'avais un boulot à mi-temps, plus indépendante complémentaire, plus des cours
comme
le soir
beaucoup,
et le week-end, pour monter mon truc, parce que je ne savais même pas faire une facture au départ. Je savais pas, je me suis mise indépendante complémentaire, puis je suis arrivée...
Pareil.
J'ai créé la PME, je dis comment je fais une facture, en fait, je ne sais pas. On me demande de facturer, je ne sais pas. Donc j'ai vraiment tout fait à l'arrache. Et au début, effectivement, les 2-3 premières années, ça a été des horaires énormes.
Oui.
Mais à un moment donné, j'ai bossé, puis j'ai eu avec chance, beaucoup de demandes, puis ça a continué. Et en fait, je me suis retrouvée il y a deux ans, je pense, où je n'en pouvais plus.
Ouais.
Et là, je me suis dit, et quand je devais aller bosser, j'avais pas envie. Je me suis dit, attention, sonnette d'alarme, parce que si ma passion, je n'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de gâcher le plaisir que j'ai à faire ce que j'adore,
ouais,
parce que j'en fais trop. Donc là, j'ai vraiment décidé de me remettre totalement en question. Et maintenant, c'est un peu rigolo, mais je travaille comme une fonctionnaire. Donc moi, j'ouvre mes mails une fois par jour.
Mm-hmm.
Je coupe mon ordi à 17h. Je ne fais rien le week-end, sauf s'il y a un tournage, évidemment. Mais
oui.
Moi, je travaille de 8 à 17 du lundi au vendredi. C'est tout.
Bah, c'est peut-être ça qui fait que...
Et en fait, je me sens beaucoup mieux comme ça. Et je bosse mieux et je bosse plus. Parce que je suis plus concentrée. Et
efficace, peut-être.
Un jour, dans une conférence, on m'a dit « Oui, mais si t'as pas envie de le faire tout le temps, est-ce que c'est vraiment une passion ?» Mais moi, c'est...
Oh.
Ouais, on m'avait dit
c'est
ça.
C'est une drôle de phrase, oui.
Et en fait, je dis bah oui, parce que en fait, quoi qu'on fasse à l'excès, soit tu deviens cinglé,
mm-hmm,
soit, enfin, moi à un moment donné, j'étais tellement tout le temps là-dedans que j'y avais plus de place pour rien.
Mm.
À un moment donné, t'as quand même une vie, que ce soit de couple ou de famille, t'as quand même des parents, t'as quand même des activités, t'as quand même des potes et tout. Et à un moment donné, t'oublies tout. Tu t'occupes pas de ton mec, tu vois plus tes parents, tu vois plus tes potes, tu sors plus. C'est pas ça la vie non plus.
Et t'es moins productive aussi.
Oui, parce qu'au final, t'es tellement le nez dans le guidon que y a plus rien qui compte. Et en fait, qu'est-ce qui fait qu'une passion devient un métier? C'est parce qu'une passion, elle est nourrie. Elle est nourrie par quoi? Elle est nourrie par tout ce qui fait que t'es toi. Mais si t'as plus rien d'autre que ça, bah t'as plus rien qui te nourrit en fait.
Et donc la passion, bam, et le boulot, tout s'écroule.
Ouais, c'est ça, parce que t'es plus nourrie par rien. Je dirais, à un moment donné, j'allais même plus au cinéma. À un moment donné, comment est-ce que tu veux que je me nourrisse de choses si je vais plus au cinéma? C'est pas possible.
Je comprends. Donc là, en fait, tu travailles vraiment que pour toi.
Ouais.
Mais tu disais, tu vois, dans la vidéo de Yaj is Awesome, pardon, de Lucas Béguin, travailler pour les autres est toujours plus facile que pour soi.
Ouais.
Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette phrase?
Mais dans le sens où je suis très bavarde, je suis très expansive et tout ça, mais j'ai peu confiance. Enfin, il faut toujours beaucoup pour que je me souviens, la première fois que j'ai envoyé une vidéo à un client, je pleurais, quoi. Tellement... il faut vraiment du temps pour que j'ai confiance en ce que je fais à 100%. Et quand tu travailles pour des gens qui te disent « Ah, je veux bosser avec toi parce que j'adore ce que tu fais, que tu as une deadline et tout ça », c'est assez facile en fait, ça devient facile parce que tu sais qu'ils aiment bien ce que tu fais, tu sais que tu as bien bossé, tu sais que tu respectes tes deadlines. En général, il faut que ça se fasse. Sinon, tu deviens fou aussi. Il faut que tu sois assez serein.
Tu mettes des limites.
Moi, travailler dans une pression permanente, je ne saurais pas. Je n'ai pas les épaules pour travailler sous la pression permanente. Je suis trop sensible pour ça en fait.
Ouais.
Mais par contre, quand tu dois bosser pour toi, bah, t'es face à ton propre miroir, tu dois sortir, vraiment, enfin, plus c'est d'écriture de film, donc tu dois bosser par rapport à tes propres, tu dois sortir tout ce que t'as dans les tripes, tu dois faire face à tous tes démons, t'as pas de deadline, donc t'as personne qui t'attend, donc en fait, c'est plus difficile de se mettre une régularité.
S'autodiscipliner, oui.
Et ici, depuis quelques mois, j'ai fait appel à une coach littéraire pour travailler sur le scénario de mon court-métrage qui traînait depuis des mois, parce que je n'arrivais pas, parce que j'avais peur de ce que j'allais sortir, je ne me faisais pas confiance. Et elle, en fait, avec elle, c'est pas qu'elle écrit à ma place, c'est juste qu'à chaque rendez-vous, en fait, moi j'ai un peu un côté bon élève, tu vois, donc j'ai pas envie d'arriver à écrire. Donc si j'ai rendez-vous, je veux avoir travaillé. Il y a une fois où j'avais pas réussi à travailler, on a reporté le rendez-vous parce que je voulais pas me retrouver face à elle. Enfin, on fait ça par ordi pour l'instant, mais par Zoom, mais t'as envie d'avoir quelque chose. Donc, et là, ça me permet d'avoir une entre guillemets, obligation. Et ça, c'est beaucoup plus simple parce que sinon, bosser pour soi, c'est...
On est un peu ses propres démons, quoi.
Ouais, c'est surtout quand... Enfin, en tout cas, moi, c'est pour l'écriture de films principalement, mais c'est des choses hyper personnelles. Donc, c'est vraiment... t'as l'impression de faire une thérapie dès que tout fait envie. C'est quand même... Il faut avoir envie, quoi.
Non, c'est vrai que c'est pas facile de se retrouver face à soi, même si on est dans une société un peu égoïste, mine de rien, on se regarde pas souvent, tu vois.
Non,
on n'ose pas.
Pas de la bonne façon.
Pas de la bonne façon, mais bon, en travaillant seul, parfois...
c'est ça, t'es tout le temps tout seul, donc c'est ça aussi, je pense que quand t'as bossé toute ta journée pour des gens, derrière ton ordi, bah, en règle générale, bah, t'as envie de sortir prendre l'air, quoi.
Ah, mais c'est normal, tu vois.
Maintenant, je pense que, vu que je passe ma vie à penser, je pense qu'il y a beaucoup de... Même quand je vais me faire une balade de 2 heures, bah, quand je rentre, bah, j'ouvre mon carnet, quoi. Parce que j'ai pensé à 20 000 bazars.
Et t'as besoin de beaucoup poser par écrit tes idées ou elles sont dans un tableau qui est dans ta tête?
Non, il faut que j'écrive tout. Il faut que t'écrives. Mais tout, hein, même appeler ma mère, il faut que j'écrive. Ouais. Quoi, parce que sinon, j'ai vraiment dû structurer. Enfin, c'est pas... Je dis carnet, mais en fait, j'ai tout passé sur l'ordi. Parce que sinon, j'allais brûler beaucoup trop d'arbres à moi toute seule. Et donc j'ai des fichiers de notes complètement cinglés.
Et t'arrives à prioriser?
Ouais.
Il faut en fait.
Ouais, j'ai des codes couleurs et tout. Enfin, c'est vraiment... C'est un peu Monica. Je sais pas si tu vois Friends, tu vois, c'est un peu Monica.
Alors je fais partie des seules personnes qui n'ont jamais
voilà. vu. Voilà. C'est un peu tableau par couleur et tout ça. Il faut vraiment que tout se regroupe. Et à un moment donné, j'avais même mis dans mon agenda des plages horaires pour manger, quoi.
Ah ouais.
Sinon, je ne le faisais même plus.
Il faut... Ouais, en fait, l'autodiscipline, c'est la régularité. Ouais.
Maintenant, ça va, j'ai réussi.
Mais ça s'apprend, en fait.
Ouais, ça s'apprend, mais c'est vrai que...
Tu n'es pas née comme ça.
Ah non, non, non.
Là, on va arriver aux toutes dernières questions.
Ok.
On n'a pas beaucoup parlé de Liège, mais je pense que je ferai ça dans un autre épisode, du coup, parce que sinon, ça va prendre du temps. Alors justement, quel est le défaut ou l'aspect négatif que tu as dû radicalement changer pour pouvoir être entrepreneur? Je pense qu'on en parle.
Mais je crois que c'est le problème de confiance. Parce que je me souviens qu'au tout début, quand je me suis lancée, j'avais cette tendance à être un peu camionneuse. Je sais pas comment expliquer. Et en fait, ça cachait vraiment un manque de confiance.
Mm-hmm.
Parce que vu que déjà, j'ai une toute petite voix,
mm-hmm.
j'ai l'air un peu jeune. Je suis une petite fille, tu vois, c'est un peu... Et quand j'arrivais comme ça en front stage de festival avec tous des gars, avec des caméras et tout ça, et ben ma seule façon de me faire un peu respecter, c'était un peu de parler fort et faire un peu la fille, un peu...
Ouais.
Et en fait, j'ai dû vraiment me calmer ça parce que ça donnait une image de moi qui n'était pas du tout la bonne.
Oui.
Et c'est une personne en formation de création d'entreprise qui m'avait dit ça. Genre, j'avais pleuré pendant une heure, elle m'avait fait remarquer, elle me dit mais il y a un contraste entre tes vidéos super douces et toi qui fais un genre de manga bruyant comme ça. Maintenant je suis toujours un petit peu bruyante.
Pour équilibrer.
Mais j'ai un peu équilibré parce que c'était vraiment c'était ma carapace en fait.
Ah ok, ouais.
C'est mon amoureux aussi qui m'a dit à l'époque, c'est toujours le même, qui m'a dit ici, enfin toujours le même, pas l'ex de tout à l'heure, hein, c'est maintenant que ça fait 10 ans.
Avec qui tu es mariée d'ailleurs.
Avec qui je suis mariée. qui m'a dit... En festival, c'était au micro-festival, il m'a dit mais Caro, t'es pas obligée de faire la rebelle comme ça pour t'imposer. Hein. Et j'ai dit bah oui, en fait, parce que j'étais super stressée, super agressive, parce que j'avais peur qu'on me marche dessus littéralement. Mm-hmm. Au micro-festival, il n'y a pas de front stage.
Ah oui, littéralement.
Ouais, donc, tu te retrouves vraiment dans les gens, avec tous les photographes et tout ça. Et en fait, dès que quelqu'un me poussait un peu ou quoi, je m'énervais. Le gars, il faisait pas exprès, il me tombait dessus parce qu'il y avait des pogos derrière. Et j'étais hyper stressée et tout ça. Et il m'a dit, Caro, si tu commences comme ça, si t'es comme ça tout le temps, tu vas faire un infarct. Et ça, j'ai vraiment dû changer pour mon métier. Vraiment me calmer et me dire, zen.
Oui.
Ne t'énerve pas et surtout n'essaye pas d'avoir une carapace de roquet alors que tu es... En fait, je crois que j'ai tellement peur de me faire attaquer avec, encore une fois, beaucoup trop sensible, qu'il y a cette carapace toujours d'un peu « ne me touchez pas, ne m'approchez pas, foutez-moi la paix », alors qu'il y a moyen de le faire plus doucement. Là, maintenant, ma façon de ne pas me faire trop bouffer, moi, c'est d'avoir un réel recul avec les réseaux sociaux, par exemple. De pas ouvrir mon téléphone, j'ouvre Instagram une fois par jour, je bloque les notifications, j'ai pas d'appli Facebook ça, sur le téléphone, enfin, c'est vraiment... Parce que sinon, dès que je rentre dedans, rien que les gens, les conversations...
Les commentaires...
Tout m'agresse, en fait. Ouais. Même pas spécialement par rapport à moi, mm-hmm. même par rapport à la vie
les
en
gens
général.
Entre eux, ouais.
Les gens qui s'engueulent, c'est un truc qui me bouffe et qui me...
Assaillit...
Tu vas faire un rapport à un film, t'as vu Dark Crystal?
Non, moi, je suis pas très satisfaite.
Il y a une image comme ça, quand on leur enlève leur souffle de vie, en fait, il est assis dans un fauteuil et en fait, il devient tout racrapoté, comme si on lui enlevait tout l'air qu'il y avait à l'intérieur.
C'est, okay.
C'est ça que ça
je
me
visualise.
Fait, en fait.
Ah oui, d'accord.
C'est ça que ça me fait. Et
c'est
donc,
quand même
j'ai
violent.
J'ai vraiment besoin de recul.
Ouais, je comprends. Et du coup, ce serait quoi le conseil que tu te donnes à toi-même, en fait? Genre pour, tu sais, pour même te lever tous les jours ou dans les moments un peu mood down.
Mais
tu...
bah, je pense que justement d'accepter qu'il faut faire des pauses parfois. Tu vois, hier j'ai eu ça, hier je sais, enfin, c'est un peu la rentrée en plus, donc lundi, mardi, gros boulot et tout ça.
Horrible.
Et avec 36 000 mails, tous les côtés, donc tu dois tout mettre à jour. Et hier à 14h, 14-15h, je me sentais pas très bien. Et là, je me suis dit, bah, écoute, va te mettre dans le canapé avec un film, quoi. Parce que ça sert à rien, tu seras beaucoup plus efficace. Et effectivement, ce matin, bah, j'ai fait en une heure ce que j'aurais fait hier en quatre. En fait, faut arrêter de penser que parce que t'es entrepreneur, tu peux pas avoir de vie, quoi. C'est pas vrai.
À noter.
Ouais, vraiment, c'est pas vrai, quoi. Parce que il faut s'autoriser à être un peu des êtres humains, parce que sinon, tu deviens cinglé et t'arrêtes ton truc après 5 ans, parce que t'en as marre.
Ouais, t'as raison. Mais ça doit être entendu, quoi.
Ouais.
Et du coup, la toute dernière question, qui voudrais-tu entendre dans ce podcast ?
Alors justement, je voudrais mettre en avant Héloïse Steyart, qui est ma coach littéraire.
Ah, je
qui en bien. Fait, elle a plusieurs casquettes aussi, et c'est une fille magique.
Ok.
Elle a donc le mot qui délivre, donc elle est coach littéraire. Elle a des coachings individuels et en groupe, etc. Et elle s'occupe également du Slow Reading Club. Et en fait, ici avec ce qui se passe, elle le fait en ligne.
Mm-hmm.
Et je l'ai fait à Noël avec elle en ligne, avec okay. la petite musique de Noël et tout ça, et c'est une fille magique en fait. Je pense que ça pourrait être cool de...
Oh bah chouette, ça fait un petit moment qu'on discute, donc
ouais.
on va couper ce podcast. Merci à toi d'être venue et c'était super intéressant.
Merci à toi.
Voilà, c'était le tout premier podcast de la Nouvelle Liégeoise. Merci à vous d'avoir écouté cette conversation. J'espère que vous avez soit passé du bon temps avec nous, soit appris quelque chose, ou bien les deux. Hein. Mais je vous invite surtout à en parler autour de vous si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un. Et promis, la prochaine fois, je parlerai plus de Liège, mais j'avoue que là, j'avais pas envie que ça devienne trop long, surtout pour une première. Quoi. Donc pour la suite, on reste en contact sur Instagram. Nouvelle.liégeoise, sur Twitter nouvelle.liège sans accent, ou sur Facebook, la page c'est La Nouvelle Liégeoise, ou bien par email, je réponds directement à tous vos messages. Donc c'est lanouvelleliégeoise@gmail.com. Voilà, à très bientôt.